les interviews de Radio Esperanza.
Bienvenue sur les ondes de Radio Esperanza, radio.esperanza.be. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 août. C'est bien ça, c'est parfait. C'est le troisième jour de Radio Esperanza. On est en direct pour une carte blanche interview artiste à Joseph Devillers. Bonjour.
Bonjour.
Et tu es accompagné d'un de tes amis, Simon Van Laar, qui fait des photos. Bonjour.
Bonjour.
Et Clarita qui s'installe doucement, tranquille. Et on va parler de quoi ? On va parler d'un film qui sera projeté ce soir dans la Grange à Esperanza. Il s'agit de The Sound of Belgium, dont tu es le réalisateur, Joseph.
Oui. Et j'espère qu'il va pleuvoir, comme ça tout le monde va voir ce film.
Ils ont prévu de la pluie.
Bah,
hein.
C'est bien.
C'est une très très bonne idée.
Moi aussi je suis contente qu'il pleuve.
Alors, qu'est-ce que raconte ce film documentaire ? Ça raconte finalement l'histoire de la musique électronique en Belgique. On peut le résumer comme ça ?
Oui, l'histoire. Je commence dans les années 20.
Oui, c'est ça, avec les années 20. Alors, on est assez étonnés parce qu'évidemment, la musique électronique, bah, elle date pas d'hier. Mais dans les années 20, il y avait quoi comme spécificité électronique en Belgique ?
C'était pas vraiment électronique, c'était mécanique. Et c'est ça le son qu'on retrouve dans la musique électronique aussi. C'est très mécanique, il n'y a pas de soul, il n'y a pas un âme dedans. C'est comme les robots, quoi.
Mais est-ce que ça en fait sa force, justement, le fait qu'il n'y ait pas d'âme dans cette musique ?
Ben, pour certains gens, oui, c'est assez militaire. Il y a des gens qui ne savent pas, ouais, qui ne raccrochent pas, mais... Mm-mm. Mais c'est en revenant sur l'accent du rythme, quoi. C'est comme la musique tribale, où la mélodie était moins importante que le rythme, et toute la nuit, le même rythme. C'est comme les chamans, quoi, avant. Le mot chaman vient de Sibérie, et là, les chamans, ils n'utilisent pas des plantes ni des champignons, c'est juste le rythme. Le tambour, toute la nuit, le même rythme, et ça te met en transe. Et la musique techno, même si tu ne prends pas des drogues, ça peut te mettre en transe.
Tout à fait.
Voilà, donc c'est indissociable, parfois, drogue et techno. Comme quoi.
Ou droguer, monde bancaire.
Oui, bien sûr.
Alors, les drogues sont partout, quoi.
Et alors, après, tu passes dans le film, je vais assez vite, hein, sur le popcorn. Tout.
Non, ça, c'est autre chose.
Ça, c'est autre chose, vas-y.
Ça, c'est un morceau qui s'appelle popcorn. Mais ici, on parle d'un style. C'est pas vraiment un style, ce popcorn. C'est juste la boîte la plus connue où on entendait ce style s'appelait popcorn. Donc, on a commencé à appeler ce style de musique popcorn. C'est un style soul, rhythm and blues, aussi un style rétro parce qu'on jouait dans les années 70 des morceaux des années 50, 60. Mais là aussi, si tu écoutes bien, on cherchait plutôt le rythme. Et
Et puis, alors là, je fais encore un saut dans le temps, on passe à l'EBM. Et là, on va peut-être bien se passer un petit morceau. Alors, tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu préfères ? Front de 4-2 ou Neon Judgment ?
Front de gâteux, ils ont inventé le mot EBM, donc...
Allez, on va prendre donc Front de 4-2 avec Headhunter.
We'll be right back.
Front de quête 2, donc toujours dans cette carte blanche à Joseph de Villers, réalisateur de The Sound of Belgium, TSOB. Pour faire plus court, on disait donc Front de quête 2, ceux qui ont inventé le terme EBM, donc Electro Body Music.
Ouais.
Donc c'est aussi un style belge, l'Electro Body Music.
Ouais, il y a des groupes dans les autres pays aussi qui font ces musiques, mais c'est surtout lié à la Belgique. Ouais.
Qu'est-ce qui fait que c'est lié à la Belgique? Qu'est-ce qui a fait...
Ça, c'est une bonne question. Bah, on peut inventer des réponses, comme j'ai fait dans le film. Il n'y a pas vraiment des réponses exactes, mais il y a plein de musiques comme ça qui sont venues d'une époque où la fin de l'industrialisation, ici à Charleroi, il y avait aussi plein de petits groupes qui expérimentaient avec l'électronique dans le Limbourg aussi, avec les mines là-bas, et à Bruxelles, les groupes comme Front de Gâteau.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de démocratisation finalement des instruments, donc de pouvoir, enfin les synthés qui sont de plus en plus petits, de moins en moins chers. Moi je me souviens dans la fin des années 80, on allait dans les magasins d'électroménager et on trouvait des petits synthés.
Avant c'était...
À 3000 francs belges hein, quand même. Mais,
c'était très cher avant. Vous voyez, un groupe comme Telex, ils se sont formés parce que Marc Moulin avait un synthé en Belgique et Dan Laxman, il avait l'autre synthé et ils se sont mis en disant « Ah, t'as un synthé, on va se mettre... » À cette époque-là, les synthés, c'était 1 million francs belges au moins.
Oui, les gros.
Ouais. Ben, les petits, ça n'existait pas encore, donc il n'y avait que les gros. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que c'était les premiers groupes électroniques.
Et donc là, on en arrive à une période où on commence à mettre les morceaux de musique, donc les morceaux de BM, moins vite. On ralentit tout et ça donne la new beat, en gros.
Oui, c'était dans certaines discothèques, la plupart des discothèques qui jouaient de la musique pop très commerciale, c'est ce que le patron veut, que les gens viennent, qu'ils boivent et qu'ils consomment. Mais c'était un peu la même chose partout, comme maintenant un peu. Et certains DJ expérimentaient avec la musique. Et aussi, il y avait des boîtes branchées, comme l'ancienne Belgique à Anvers, où il y avait un public assez très branché, ou des juifs, des gens de la mode qui venaient et qui cherchaient quelque chose de spécial. Et là, les DJ, ils cherchaient plutôt de créer une atmosphère. Donc, ils mélangeaient ça avec la musique des films pour créer une atmosphère dans la boîte.
Dicoroni, par exemple.
Ouais. Et il y avait aussi plein d'artistes qui mettaient des installations dans la boîte pour faire spécial. Et c'était, c'était les années 80, la guerre froide, il y avait plein de la fin de l'industrialisation.
La crise.
Oui, la crise.
La crise.
et donc c'était une période assez glauque et ça s'entendait aussi dans la musique. Et aussi, si tu ralentis, il y a des morceaux pop qui sont nuls à la vitesse normale, mais tu le ralentis. Et ça devient très sombre et avec les basses qui ont beaucoup de profondeur comme ça.
Alors toute cette histoire là, à la fois ça sent le vécu, mais est-ce que tu l'as vécu? Parce que a priori tu as l'air jeune.
Ah ouais, je suis trop jeune pour avoir vécu tout ça.
C'est indiscret de demander quel âge tu as.
J'ai 35 ans.
D'accord. Donc, les années 80, la New Beat, tu l'as. Parce que moi, j'ai 34 ans. Donc, oui, je l'ai connue. J'étais petite, mais j'étais jeune. Mais je veux dire, tu t'es intéressée à tout ce.
À l'époque, non.
À tout. Oui, comment c'est venu un petit peu
Ce que j'ai connu, c'est probablement la même chose que tout le monde. Mm-hmm. On connaissait à l'école. Tout le monde portait des badges New Beat.
Oui, oui.
Mais c'était seulement la fin du New Beat. Tous les morceaux qui passaient sur la radio. Parce qu'au début, les premiers trucs, ça se passait pas sur la radio. En Flandre, c'était assez clair. Il y avait une chaîne commerciale qui était née en 89, le VTM. Et tout d'un coup, on voyait cette musique qui venait des discothèques. On voyait ça sur la télé. Et là, tout le monde commençait à danser là-dessus. Les mamies, les papis, tout le monde. Mm-hmm. Et c'est ça ce qu'on a connu. Mais c'est seulement après, quand j'ai commencé à acheter des disques sur les marchés Opus, à cette époque-là, personne ne cherchait des vinyles. Uh-huh. Juste les fanatiques de jazz et de funk. Mais tout le reste, c'était la merde. Donc, c'était pas cher du tout. Je collectionnais plein de disques.
Il y a 10 ans, dans les brocantes, on retrouvait des compiles New Beat, des disques New Beat, et ça s'achetait mais pour 50 cents,
pour
1 euro.
Moi, j'ai trouvé à 2 euros les confettis à Liège, quoi. à Saint-Folien.
Moi, je l'ai encore celui de.
Oui, je l'ai gardé.
Oui, c'était à l'époque où il y avait encore le franc belge, personne ne voulait. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y a plein de morceaux qui sont quand même très bien. Ouais.
Two Bodies, par exemple.
Ouais.
On le passe.
Ça, j'aime bien.
Et voilà, c'était donc Two Bodies, c'était bien ça. Acid, j'ai oublié
drill.
Le morceau en fait.
Acid Drill.
Voilà. Et là, c'est encore vraiment la new beat ou est-ce qu'on passe déjà un peu
C'est quoi tous ces noms de styles?
Voilà, c'est quoi c'est perdu, ouais.
Aujourd'hui aussi, il y a trop de noms de styles, mais finalement, c'est
non, mais c'est ça, c'est la new beat et puis point, quoi.
Le morceau qu'on vient de s'écouter, encore une fois, on parlait, non, de trance tout à l'heure. Je ne sais plus si on en parlait hors antenne ou à l'antenne. Mais voilà, ces genres de morceaux, on n'a pas envie que ça s'arrête.
Oui.
D'où le principe du mix où c'est des morceaux, il n'y a pas de blanc, enfin, c'est pas un disc jockey qui met un morceau puis un autre morceau. C'est vraiment, on a envie une nuit entière sur ce rythme-là et on enchaîne les morceaux sans voir la différence entre un morceau et l'autre. Et du coup,
c'était à peu près ça à l'époque, non? Dans les boîtes, c'était...
Oui, ça a commencé avec le disco, en fait. Les premiers maxi-disco, comme ça, les DJ, ils étaient capables de mixer toute la nuit le même rythme.
Tu sais, c'est épuisant quand même à la longue.
Mais toi aussi, en fait, tu es DJ.
Oui, bah, je collectionne les disques. J'adore énormément la musique. Donc, si j'aime quelque chose, j'aimerais bien le partager. Ou bien c'est en faisant un film, ou bien c'est en jouant ces disques sur les fêtes. Quoi.
Ouais. T'avais déjà fait des films avant?
Des petits courts-métrages.
Bah là, vraiment, c'est le premier long-métrage.
Oui, c'est mon premier film. Ouais.
Et alors, dans ce film, il y a un tas de personnes. On retrouve d'ailleurs Lou Depré, Plastic Bertrand. T'as été retrouver tous ces gens-là qui étaient acteurs de la New Beat d'une façon ou d'une autre?
Comment?
Acteurs de la musique électronique.
T'as retrouvé tous ces gens-là, quoi. Tous les...
Bah oui, ils sont dans le film. Donc je les ai retrouvés.
Il y avait aussi Lord of Acid. Ce mec était quand même... c'est bah qui, oui, en fait? Parce
lui,
qu'en plus...
Lui, il voulait pas... Ouais. Je l'ai contacté plusieurs fois. Il voulait pas.
Il voulait pas?
Non, parce que je téléphonais pas de la part de la télé ou quelque chose. Donc, il pensait que j'étais un étudiant qui faisait un petit film. C'est pas grave. Mais la chanteuse de son groupe est dans le film. Elle est beaucoup plus jolie, donc.
Ouais, ça tombe bien. Et voilà, comment est-ce qu'on explique que tout d'un coup, enfin, ce style de musique... Parce que là, maintenant, même encore aujourd'hui, on dit New Beat, bah oui, musique belge. Cette musique belge a finalement fait... Enfin, en France, ça marchait aussi, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Ça a vraiment commencé à bien tourner. Comment ça s'est fait, ça, ce fait de devenir un peu global?
Mais comment ça se fait que ce style de musique...
Ça vient d'un petit pays comme ça, d'habitude, dont on se moque parce qu'on mange des frites.
Les lois belges... Il y avait quand même quelques DJ qui aimaient vraiment cette musique-là, parce qu'au Boccaccio aussi, parfois, par exemple, le patron, il voulait la musique commerciale. Quoi. Il s'en fout de la musique. Si les gens, ils boivent, c'est bien. Mais là, il y avait un DJ qui insistait, non, je veux continuer à jouer cette musique-là. Il a fait grandir ce mouvement, donc c'est bien. Mais aussi, il y avait plein de lois belges qui permettaient qu'on avait toutes ces boîtes. Parce que pour moi, c'est seulement quand j'ai fait les recherches pour ce film que j'ai découvert que... Moi, avant, je pensais des boîtes comme Boccaccio ou des autres boîtes, il y en a partout dans le monde. Non, c'est pas le cas. C'était qu'en Belgique à cette époque-là.
Alors en fait, on va expliquer le Boccaccio, donc qui était comme la boîte où on passait de la new beat tout le week-end, quasi.
Oui.
Et qui était vrai, bah, c'était pas une boîte, enfin parce que là maintenant on parle de boîte, mais c'était énorme en fait.
C'était créé juste en seule raison pour faire danser les gens.
Combien de personnes pouvaient rentrer dedans, t'as une idée?
3 000 ou quelque chose, ouais, ou voilà. 2 000, il y en avait encore 3 000 sur le parking. Mais par exemple en France, c'était trop cher, la musique était pas bien et les boissons, par exemple les Red Bull étaient interdits jusqu'à il y a quelques années.
En France,
ouais. Ouais, des trucs comme ça. Et ici, c'est la Belgique, on consomme, mais on peut. Ça, c'est fini un peu maintenant. En Flandre, les règles deviennent beaucoup plus strictes. Les niveaux de décibels, c'est fou. Les gens, ils peuvent parler devant les enceintes maintenant. C'est complètement dingue. Mais avant, dans cette époque...
Ce n'est pas normal.
Non. Avant, à l'époque, c'était encore faisable de construire des boîtes comme ça.
Et c'était carrément des ce qu'on appelait des méga dancing.
Ouais.
J'aime bien ce mot-là. Ça fait un petit peu désuet, comme ça, un petit peu vieux... vieux style.
Oui, dancing. C'est quelque chose qu'on dit en Belgique dans les autres pays. Ça, un peu. Mais oui, en comparant avec la France ou l'Angleterre, où il y avait plein de raves et les gens disent ouais, c'était trop chouette. Ben, ici, il n'y en avait pas vraiment parce que ce n'était pas nécessaire. Tout était légal. Là, les raves, ils étaient là.
Enfin,
parce
pas
que
tout était légal. prendre des pilules, c'était quand même pas légal.
Ah ouais,
non, mais on parle de musique et d'organiser des endroits. Oui. D'accord, oui.
Mais c'était pas nécessaire d'organiser des rêves parce
directement,
que.
Directement,
moi, tu sais. Tout est légal, ouais.
Ouais, donc voilà, un pays finalement où on s'en rend pas compte hein, que la Belgique était finalement un pays assez permissif. Donc.
Oui, peut-être que la tolérance a permis que du coup les gens venaient de l'extérieur, je sais pas, de Hollande ou de France pour venir ici parce que c'était plus démocratique, plus toléré et que du coup ça a facilité l'expansion de la musique belge ou de l'influence de la musique belge sur les autres musiques, quoi.
Alors, on va peut-être se passer un autre morceau. Je ne sais plus ce que tu avais choisi encore.
Ah, moi non plus.
Sur le petit papier blanc qui colle d'un côté, le deuxième.
Thank you.
on espère que les auditeurs de Radio Esperanza ont mis les basses à fond et les haut-parleurs à fond. Oui, vous êtes toujours sur Radio Esperanza.
C'est ce que j'allais dire, en fait. Une autre musique est possible, Esperanza. Ça nous change un peu. Alors, je vois aussi, d'ailleurs, merci Pascal à la technique, qui a l'air de bien se marrer aussi là aujourd'hui. On ne le voit pas beaucoup bouger sur sa chaise d'habitude, et là, on le voit un peu sautiller. Voilà, donc là, c'était Jones et Stevenson. Et donc, il y avait beaucoup de groupes. Il y avait énormément de groupes, parce que là, tu as fait une compile quand même de 4 CD.
Mmh.
Qui accompagne le
film.
Et
c'est même pas assez. Hein.
Et c'est même pas assez. Ah, ce oui, je dis quoi, il y a même pas.
Mais à vous, il y a aussi beaucoup de groupes fausses, quoi. Parce que on produisait tellement que le public n'allait plus acheter. Si un artiste produisait 3 disques par semaine, le public, ils vont dire, mais c'est pas normal. Donc, ils mettaient des autres pseudonymes. Donc c'était Lou Deprez qui utilisait des autres pseudonymes pour faire sortir chaque disque. Et parfois, chaque disque, c'était un autre groupe pour faire semblant qu'il n'y avait pas un groupe. Hein, mais c'était d'accord. Beaucoup le même artiste ou beaucoup le même ingénieur de son qui était là-dedans.
Mais donc voilà, mais quand même, du coup, il y avait une grosse production. Là. Tu dis 3-4 disques par semaine.
On gagnait plein d'argent avec quoi, à l'époque. Maintenant, si tu vends de ton CD... Ton morceau, 4000 disques, t'es numéro 1 dans le lead parade pendant une dizaine de semaines. À l'époque, si ton morceau ne marchait pas du tout, t'en vendais quand même 10 000 morceaux. C'était trop facile de vendre. Et il fallait que si ton DJ jouait ce morceau-là 2-3 fois la nuit, ouais, t'avais un succès.
Après, on avait les technologies à l'époque qu'il n'y avait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, t'aimes bien un morceau, tu le tapes dans Internet, tu le trouves, tu le télécharges, il n'y avait pas de... Aujourd'hui, tu ne vends plus.
Ouais. Mais n'empêche que ce qu'on parlait hors antenne avant l'émission, pourtant, à cette époque-là, moi, je me souviens, j'avais quoi ? J'avais dû avoir 13, 14 ans, 15 ans. Et ce que je faisais, c'est quand il y avait une émission New Beat qui passait à la radio, je mettais la cassette, je mettais Rec Play, je descendais aller manger avec mes parents, on regardait un film ou un truc comme ça, et puis j'avais ma montre qui sonnait 3/4 d'heure plus tard, je remontais, je retournais la cassette, Rec Play. Pendant toute la semaine, j'écoutais en boucle l'émission, et puis voilà, la semaine d'après, j'effaçais la cassette et hop, c'était reparti quoi. Et donc il y avait une sorte, c'était du podcast.
Ouais. C'était un
piratage.
Est-ce que si aujourd'hui, si tout ce courant musical-là avait eu lieu aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, finalement, grâce à Internet, etc., on a accès à tout, ouais. Est-ce qu'il y aurait eu cette expansion musicale comme il y a eu à l'époque, dans le sens où, aujourd'hui, comme on a accès à tout, aujourd'hui, j'écoute, de la salsa, et puis après, je me mets, j'écoute de la pop-rock, et puis... qu'à l'époque c'était peut-être plus restreint, on était c'était géographique quoi, on avait, je sais pas.
Ben oui,
je
me pose à l'époque la question. À l'époque on avait quelque chose qui nous manque maintenant.
On écoutait local quoi, on écoutait la musique locale, on écoutait la musique qu'on avait près de chez nous.
Pas nécessairement, il y avait plein de morceaux de Chicago ou d'Allemagne, de partout, mais le plus important c'était le DJ, c'était le filtre. Donc lui il cherchait. Et selon son propre goût, il redonnait au public. Et maintenant, tu as accès à tout, mais il n'y a pas de filtre entre ce tout et toi.
Voilà.
C'est toi et tu dois t'emmerder dans toute cette merde musicale. Il y a trop. Mais bien sûr, là-dedans, si tu as quelque chose qui marche, ça peut aller très vite.
Oui.
Mais c'est ce qui nous manque maintenant sur Internet, des filtres.
D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent DJ, quoi.
Ah oui, il y en a trois.
Ouais,
dans chaque rue, il y en a deux.
Oui, non, mais c'est clair, dans chaque rue, il y en a deux minimum, ouais. Quoi.
Mais la plupart, ils n'ont plus cette fonctionnalité de filtre et de vraiment chercher qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que moi j'aime bien. Non, il y a beaucoup de DJ, genre les DJ qui font les mariages ou des trucs populaires, là, ils copient ce qui marche déjà. Ils n'essayent pas de faire évoluer le goût du public.
Aujourd'hui, on a peut-être les radios qui jouent ce rôle-là.
Les radios associatives. Hein.
Non, oui, les radios associatives, les
grosses...
mais...
Parce que même les grosses radios passent quoi ? Passent du commercial, c'est ce qui marche. Il y a une sorte d'uniformisation comme ça de la musique. Et par contre, voilà, quelqu'un comme Stromae, on peut en penser ce qu'on veut, mais il est quand même arrivé avec comme un ovni musical quelque part. Ouais. Et c'est peut-être ça qui fait que ça marche. Mais du coup, il y a des bébés Stromae qui naissent un peu partout, quoi.
Alors, ouais, et d'autant plus qu'il a un succès de fou en Espagne et en Italie. Il a suffi d'un animateur radio qui un jour a passé Stromae sur une radio italienne. Toutes les radios italiennes passent Stromae et il est invité en radio là-bas. Et en Espagne, pareil, ça passe à la télé.
Mais c'est encore un Belge.
Et tout ça pour dire, voilà, le rôle de diffusion, oui.
Juste pour redire que même Stromae, on le joue en Malawi.
Oui, oui,
redis ça.
On le joue en Malawi même. Hein. J'habite en Malawi maintenant et j'étais étonné sur la radio et soudain, t'entends Stromae qui sort de rien. Et tu comprends pas d'où ça vient ou des trucs, mais on le joue partout dans le monde entier.
Oui, oui. Voilà, donc on a une sorte de globalisation, d'uniformisation de la musique, mais c'est même carrément à un niveau mondial. Bon, finalement, la New Beat, ça a été un peu le cas aussi, puisque ça a été, enfin, je sais pas si ça a passé l'Atlantique, si aux États-Unis.
Non, mais c'était très.
C'était quand même finalement
petit.
Encore assez local.
Oui, hein. À New York, il y avait quelques DJ qui aimaient beaucoup ce style musical, mais c'était pas globalisé. La globalisation, c'est vraiment. Oui, c'est venu dans les années 90.
Bon, et encore aujourd'hui, il y a encore des courants alternatifs, ça c'est clair, enfin, il faut pas se leurrer. Pardon. Et donc avec des petites radios, bah, comme 48FM, comme Run, comme Panic, comme Campus, qui vont encore chercher ce qui n'est pas commercial, ce qui est intéressant. Vous voyez actuellement quelque chose d'intéressant dans la musique qui vous a, quelque chose qui t'a dit, ah bah tiens, voilà ça.
Ouais, ce qui... Moi, m'intrigue beaucoup, c'est la musique du tiers-monde, mais la musique électronique, parce que pour la première fois dans l'histoire, ils sont capables de s'acheter des ordinateurs, donc en utilisant les sons du techno de chez nous, mais ils font leur musique à eux. Donc à Angola, il a la musique Kuduro, c'est des rythmes, mais t'écoutes, c'est bien influencé par les trans. Toi, tu parlais des favelas, là, ils font des remixes de Miami Booty Bass à leur façon à eux, et ça, c'est vraiment intriguant.
Mm-hmm. L'Afrique du Sud aussi, qui bouge pas mal avec des groupes comme Skip and Die, y a tout le label Jarring FX, ouais, fait tout un...
Ou The Antwerp, qui sont Antwerp, super connus, mais si tu écoutes bien, il y a un bon son belge dedans.
Et il y a Spook Matambo, je ne sais pas si tu connais. Ah bah ça, je vous invite à découvrir. Non, ce n'est pas dedans. Dommage, il faudrait vraiment un jour que je le passe sur Radio Esperanza et que je donne le truc à Jean-Yves. C'est un gars, en fait, qui a repris, entre autres, Control de Joy Division à sa version, et c'est juste énorme. Et voilà, il faut absolument découvrir Spook Matambo. Il est sur SoundCloud d'ailleurs. Hop, de la pub.
Et ça, c'est
voilà,
fait.
Un petit coup de SoundCloud, de Spook Matambo. Dommage qu'on l'a pas, tiens d'ailleurs. On va essayer de régler ça. Vous voulez encore un petit morceau de musique?
Bah, fais de la pub pour le film aussi. Hein.
On va en parler juste après.
Okay,
comme ça on se passe un petit coup de Strong Heads.
Frequency response test. We'll be right back.
Strong Heads, c'était bon, hein. Ça, ouais. Ça change, hein, sur Radio Esperanza. Oui, donc vous êtes toujours sur Radio Esperanza, je vous rassure. Et on est toujours bel et bien en direct dans le festival Esperanza, parce que tout simplement, voilà, il y a ce superbe documentaire de Sound of Belgium qui sera diffusé tout à l'heure, Joseph.
Oui. Quoi?
Alors, 19h15.
Ah ouais. Donc dans la grange, c'est ça?
Oui.
C'est très beau d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as déjà été voir.
Mon film? Oui, non, oui, j'ai déjà trop vu. La grange, non, je vais voir.
Mais oui, non, mais la grange, comment c'est installé, okay. Il y a des canapés, il y a des coussins.
Je suis curieux de voir.
C'est vraiment bien chill. Ouais. Donc on espère qu'il pleuve, bien entendu.
Oui.
Et puis ce soir, tu vas voir quelque chose?
Oui, je vais voir les ambassadeurs. Ouais.
Voilà, donc avec Salif Keita, oui, le vu chanteur d'Amadou et Mariam.
Salif Keita, je l'ai vu brièvement sur Couleur Café l'année passée. Et pour moi, c'est comme du techno, quoi. Ça rentre en transe.
Voilà. Eh bien, donc, on rappelle, The Sound of Belgium, on le trouve, en fait, le film sous forme de DVD un peu partout maintenant. Hein.
Ouais. Mais si on cherche, c'est difficile à trouver. Si on cherche pas, on retrouve.
Oui, ouais, parce que moi, je l'ai vu dans le style MediaMarkt ou la Fnac.
Oui, au MediaMarkt, parfois, ouais. Oui.
Et la compile qui va avec, donc compile de 4 CD, c'est pas encore assez. Où on retrouve d'ailleurs tous les morceaux qu'on a diffusés durant cette émission. Eh bien, voilà. Ben, t'en as un suivant prévu, là, de film
Ouais, des petits projets, pas encore quelque chose de concret.
Et alors, tu me disais que tu vas mixer au Bonnefeuille à Bruxelles, donc rue des Pierres,
ah oui,
numéro 7.
Oui, le 9 août. Ah oui, et pour les gens qui aiment vraiment la cette musique-là de Sound of Belgium, le 4 octobre au Palais Douce à Bruxelles.
Ouais. Il y a quoi là?
Bah, ce serait grand, au Palais Douce.
C'est des 7 DJ de la musique qui passent, ouais, dans le reportage.
De 19h le soir jusqu'à 7h le matin.
12h de, ouais.
Alors,
de son.
Il y a qui déjà le 4 août ira dormir chez Babou? C'est pour rire. Bon, alors, voilà. Ben, merci en tout cas d'être venu. On avait dit qu'on passerait une petite demi-heure. Ben, il est quasi 4 heures, donc il est quasi le temps de retrouver Hors d'Asage. Donc, la mère quitte l'antenne, le fils l'apprend. C'est ça?
Oui.
Tu nous dis un peu ce que vous avez prévu pour l'émission?
On a prévu 2 personnes, une interview.
Voilà. Eh bien, Joseph Simon, merci beaucoup. Claire, à l'animation, merci.
Merci à vous.
Merci.
Merci à Pascal pour la technique. On se retrouve donc tout de suite pour Hors des âges. Au revoir à tous.